Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Paltera, bonjour.
Salut.
Et de Jean-Claude Rouchouz.
Bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer le Salon d'automne qui va avoir lieu du 18 au 20 octobre à la salle polyvalente de Die. Donc un rendez-vous pour les passionnés de champignons et puis il y aura un thème aussi sur l'apiculture cette année. Et tout ça, c'est proposé par l'association dont vous faites partie tous deux qui s'intitule Sources et Racines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver lors de ces trois journées ?
Eh ben beaucoup de choses, hein, puisque on s'efforce de diversifier le salon d'automne. Alors bien entendu, classiquement depuis 2012, puisqu'il a été créé en 2012, hein, c'était un salon mycologique. Il y a les champignons, donc on a en général entre 100 et 200 espèces différentes de champignons qu'on accueillit avant le salon. Et cette année, donc, c'est une nouveauté, c'est vraiment une nouveauté. C'est l'apiculture avec des conférences, avec des ruches présentes. Voilà, l'apiculture. Et il y aura aussi les plantes, ce que l'on fait habituellement, hein, les plantes. L'association des timbres du Diwa qui présente des timbres sur les champignons. Et puis, alors ça, on ne l'avait pas fait l'année dernière. Je crois que ça remonte à 3 ans, une superbe collection de champignons en terre de Jean-Di Gautier, qui a dû être créée dans les années 1960-70 et qui présente, je ne sais plus le nom, mais peut-être 150 champignons en terre, donc qui seront visibles à l'exposition.
Ces champignons, ce sont ceux qu'on trouve dans le Diwa,
alors,
assez
Diwa
proche.
Et Vercors.
Comment ça se passe d'ailleurs, cette cueillette qui sera proposée en exposition ?
Eh ben, les champignons, donc, moi je suis le mycologue de service, et il y aura aussi, qui va venir nous aider, Caroline Paliard, qui est prof de mycologie à Lyon. Donc il y aura au minimum deux mycologues. Donc quand on va chercher des champignons avant, on les détermine. Et ensuite, on les met sur une assiette, hein, avec le nom, s'ils sont comestibles ou pas. Et puis, on peut donner des renseignements pour les gens qui viennent éventuellement avec des champignons pour nous les faire déterminer. Donc ça, c'est ce qui se fait depuis 2012. Hein.
Ça se fait toujours aussi d'aller voir le pharmacien pour demander son avis ?
Alors, c'est toujours utile d'aller voir les pharmaciens, mais il y a des pharmaciens qui sont un peu moins compétents maintenant, ils ont du mal, donc, mais ils sont prudents, donc ils vous disent non, ça c'est non, ça c'est non. Voilà, parce qu'il faut bien entendu être très prudent en ce qui concerne la cueillette des champignons, étant donné qu'il y a quand même 30 champignons toxiques dans le Diwa et dans le Vercors, donc 5 mortels, donc il faut être prudent.
Et puis autour de ça, donc, il y a l'apiculture, un thème que, Vincent, toi, tu peux parler.
Oui, on peut développer sur le thème de l'apiculture. Juste pour préciser un petit peu l'organisation donc, de la fête mycologique, en amont du salon, il y a 2 sorties champignons qui sont prévues, donc avec Jean-Claude, qui seront le dimanche 13 et le mardi 15 octobre. Donc prévoir bonnes chaussures au pique-nique. Et le rendez-vous est à 8h30 devant l'office du tourisme. Et il y a une participation donc, au profit de l'association qui se monte à 5 euros.
Et c'est l'office de tourisme de Die, hein, au parking Bayros.
Donc tous ces champignons-là serviront pour la fête mycologique. mais les gens peuvent aussi aller d'eux-mêmes cueillir des champignons. Tous les champignons qui veulent bien cueillir, en prenant bien sûr les précautions d'usage, parce que certains peuvent être toxiques. Donc, quand on cueille des champignons, il ne faut pas se lécher les doigts ensuite, voire même prendre des gants si on n'est pas très sûr. Mais bon, je pense que ça peut être problématique aussi, ouais. Suivant les champignons. Mais, donc, il y a la possibilité d'aller soi-même, en famille, tout seul, comme on veut, faire des cueillettes de champignons, et ensuite de les ramener à l'exposition, de manière à ce que Jean-Claude et Caroline puissent les déterminer et dire qui sont ces champignons. Voilà pour ce qui est du programme préliminaire, on va dire, de la fête mycologique. Et pour ce qui est de l'apiculture, donc effectivement, l'association a décidé chaque année, en fait, dans une optique naturaliste, de mettre un éclairage particulier sur une activité. Et cette année, c'est l'apiculture. Donc on a essayé de rassembler un certain nombre d'apiculteurs qui seraient intéressés pour présenter les activités, les différentes activités apicoles. Et on aura donc en exposition du matériel d'apiculture, qui sera là à partir dès le samedi, peut-être même le vendredi, si on a le temps d'installer ça pour les scolaires. Il faut savoir que l'exposition est ouverte donc pour les scolaires le vendredi et pour le grand public le samedi et le dimanche, donc le 19 et le 20. Les différents ateliers organisés autour de l'apiculture. On a samedi à 14h rencontre autour d'une apiculture locale. Installer un rucher dans son jardin, savoir-faire et enjeux. Donc une conférence qui sera animée par Jérôme, qui est apiculteur professionnel. À 15h, on invite tous les apiculteurs intéressés à venir échanger autour de leur activité. Donc les apiculteurs d'Iowa, mais même au-delà, hein, s'il y en a qui veulent. Et à 16h, donc Jean-Claude Jarjac, qui est dans le haut d'Iowa et qui a depuis des années travaillé autour de soit des méthodes anciennes d'apiculture, soit des méthodes innovantes parfois, va venir faire une démonstration de fabrication d'une ruche en paille. Et le lendemain, donc je reste sur le thème de l'apiculture, hein, le programme est comprend aussi des activités autour des champignons, mais là je reste autour de l'apiculture. À 11h, on a observation de pollen et de spores, donc pour les champignons, au microscope. Parce qu'il faut savoir que les abeilles butinent à la fois du nectar et du pollen, et que le pollen permet vraiment de savoir qu'est-ce que les abeilles ont butiné et de déterminer de quoi est composé en fait un miel. Et pour ce qui me concerne, je serai présent donc à plusieurs moments sur le site et je serai là pour faire une présentation de l'activité apicole de base et répondre aux questions éventuellement de gens qui s'intéressent au sujet.
Il y aura aussi la Ligue de protectrice des oiseaux, hein, qui aura un stand, donc avec qui pourra donner des informations sur la faune ornithologique locale. Donc il y a ça aussi, ainsi que un panneau et une vidéoprojection sur les orchidées avec Georges Granzon.
Tout ça à la salle polyvalente, je ne sais pas si on l'a précisé.
Voilà, ça salle polyvalente, boulevard du Ballon.
C'est intéressant que les gens le sachent.
Voilà, la grande salle, à partir de 10h.
Hein. J'en avais assisté à une exposition il y a peut-être 2 ans. Il y avait au-delà même des champignons, d'autres plantes qui étaient proposées, des graines aussi, il me semble.
Oui, oui.
C'est de nouveau présenté chaque année.
Au niveau historique, c'est... C'est avec c'est moi et Daniel Nall qui ont créé l'exposition mycologique en 2012. Et on avait eu le soutien de Marc Tessier, qui était le président de l'association d'Ioise des Amis des Arts. Donc de 2012 à 2016, cette exposition a été prise en charge par l'association d'Ioise des Amis des Arts. Et puis en 2017-2018, ils ont passé le relais à Sources et Racines, hein, qui est une association qui aussi vient de créer un jardin de plantes médicinales et tinctoriales à l'Aube, hein, un jardin de l'Aube, et qui organise toute l'année des balades nature, hein, on pourrait dire des balades nature, champignons quand il y en a, et puis plantes, orchidées, voilà, il y a eu plusieurs balades dans l'année, et il y en aura, donc il va y en avoir dimanche prochain, hein, sur les champignons, mardi 15, pareil, 8h30, Office de tourisme de Die, et également le dimanche, alors après l'exposition, le dimanche 27 octobre, il y aura également une sortie champignons, donc là, le 27 octobre, on est probablement certain qu'il y aura des champignons dans le Diois, parce que malheureusement, maintenant, il y en a peu dans le Diois. Mais la première sortie qu'on fait dimanche prochain, on va dans le Vercors où il y a des champignons.
Sources et Racines, qui est porteuse de ce salon d'automne, comment se porte-t-elle comme association ?
L'association se porte plutôt bien, dans le sens où justement ce projet de création de jardin, qui était quand même un projet assez conséquent pour nous, a pu se réaliser, notamment donc avec le soutien du département et de la mairie. Donc on a fait un grand chantier au printemps, et le jardin est en grande partie installé, à savoir que la partie principale donc d'installation des plantes est quasi terminée. On peut déjà visiter le jardin, qui est donc au jardin de l'Aube, à l'emplacement de ce qu'on appelle les jardins familiaux, en fait. Donc juste en dessous de l'école Chabestan, il est en libre accès, hein, chacun peut y aller quand il veut. Et dans un deuxième temps, on va donc mettre en place un affichage, de manière à ce que ce soit beaucoup plus explicite pour les gens qui veulent visiter le jardin. Néanmoins, on invite tous les gens qui seraient intéressés par les activités nature, que ce soit donc la botanique, des gens qui s'y connaîtraient un peu en faune aussi, parce que Jean-Claude donc organise des balades autour des castors notamment, mais on est tout à fait ouvert à ce que des gens nous proposent des activités et qu'on puisse avec eux organiser encore plus de sorties. On a des programmes qui sont publiés en chaque début de saison. On a un programme printemps, un programme été, qui s'adapte un petit peu aux différentes activités nature possibles suivant la saison.
On s'intéresse, d'une manière générale, à tous les savoirs nature. Hein. Donc, on a de la chance d'être dans le Diois, où il y a une biodiversité assez remarquable, hein, protégée pour le moment. Hein, et donc, on invite tous ceux qui s'intéressent à la nature à venir contacter l'association et à venir au Salon d'automne.
On peut parler aussi de Marie Marquet, qui fait partie de l'origine de Sources et Racines. Concernant les champignons et dans son domaine, celui de la teinture, est-ce qu'elle y a trouvé quelques résultats par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le Diois ?
Marie Marquet est la spécialiste des plantes tinctoriales, mais aussi des champignons tinctoriaux. Elle a publié un ouvrage sur ce domaine-là. Et donc, bien sûr, elle sera présente au salon avec éventuellement un atelier sur la teinture des textiles. Hein. Donc c'est un caractère important qui est en plein développement, en fait. Hein. C'est en développement, ce secteur-là. Utiliser les plantes, certaines plantes et certains champignons pour réintroduire des colorants textiles qui étaient un peu moins utilisés. Voilà.
Sur ce salon d'automne, donc les champignons à l'adresse de tous les publics. Qu'est-ce qu'on pourrait donc il y a aussi possibilité d'échange avec vous et bien sûr, les personnes présentes. Qu'est-ce qu'il y aura autour? Il y aura peut-être des quelques tables pour discuter. Comment ça se passe
pour les champignons? Moi, je suis au stand détermination, mais bien entendu, les gens peuvent venir me voir pour avoir des infos complémentaires. Il y aura des panneaux explicatifs sur les champignons, hein, la présentation des grandes familles de champignons. Ça, c'est ce que l'on fait habituellement. Hein. Donc, il y aura ça. Et bien sûr, on invite surtout, comme c'est une première cette année, hein, depuis 2012, tous les apiculteurs, non seulement du Diois, mais du Crétois et de la Drôme, à venir nous voir et à faire une sorte de réunion générale, parce que l'apiculture a tout de même des problèmes. Hein, il y a eu des problèmes climatiques, il y a des parasites, etc., etc. Donc c'est utile d'avoir une sorte de réunion d'ensemble pour voir ce que l'on peut améliorer.
Et d'ailleurs, on invite aussi les éventuels apiculteurs qui viendraient à venir avec un tout petit pot de miel, parce que l'idée c'était aussi d'organiser une dégustation des miels régionaux, avec ensuite un pointage sur une carte de l'origine des différents miels et de faire une dégustation comparée pour essayer donc de sentir des saveurs différentes dans chaque miel, les identifier par rapport à leur origine et peut-être même le lendemain, mais je ne suis pas le spécialiste de la palynologie, à savoir l'étude des pollens, mais peut-être même le lendemain, on pourrait avoir une petite idée des fleurs qui sont présentes dans ces miels-là, via l'étude au microscope des pollens présents dans les miels.
Et le samedi soir, il y a une petite soirée dégustation de soupe.
Oui, hein, soupe au shiitake. Shiitake fourni d'ailleurs par les producteurs de champignons de la vallée de Quin, qui seront présents le dimanche tout l'après-midi. Donc on pourra aussi, si on est revenu bredouille de sa balade aux chanterelles, acheter du shiitake ou de la pleurote aux producteurs de champignons de la vallée de Quin.
Des frères Hansen.
Oui.
Voilà. On peut le dire, hein, on a eu un interview d'eux.
D'accord.
Pour présenter leur travail.
Ouais, l'entrée est libre. Hein, l'entrée est libre. Il y a une participation au chapeau. On pourra également acheter des ouvrages sur les champignons ou les abeilles. Hein, mais l'entrée est libre. Habituellement, on reçoit... Depuis 2012, disons que la fréquentation varie entre 300 et 600 personnes. Le nombre de scolaires qui visitent est plutôt en augmentation, hein, puisque on a au minimum une centaine de scolaires qui visitent. On espère qu'il y en aura plus cette année. On invite tous les instituteurs à venir le vendredi. Et on aimerait bien que pour la première fois, parce que malheureusement les collégiens et les lycéens ne viennent pas, on ne sait pas pourquoi, mais on invite les collégiens et les lycéens à venir avec leurs professeurs de sciences naturelles ou de français ou d'autres, et bien sûr éventuellement avec leurs parents, samedi et dimanche. Alors le vendredi, c'est ouvert au public aussi, hein, mais bien sûr, comme c'est la dernière journée scolaire avant les vacances, c'est une journée scolaire. Hein. Donc on espère avoir, comme l'année dernière et comme il y a deux ans, entre 100 et 200 scolaires qui viennent visiter l'exposition. Les instituteurs peuvent préparer des petites questions ou un dessin à illustrer. Voilà, ça s'était bien passé. Hein. L'année dernière, ça s'était bien passé.
Je reviens à l'apiculture. Tout au long de l'année, il existe toujours des contacts entre apiculteurs de manière à avoir une certaine température de l'activité.
Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai des contacts avec des apiculteurs, mais rien de formel. C'est-à-dire que c'est toujours en se croisant ou éventuellement, si on a un problème, on passe un coup de fil en disant « Ah, j'ai un souci, qu'est-ce que t'en penses ?» Des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'activité d'apiculture se pratique un petit peu en solitaire quand même. Après, il y a des ouvertures, notamment dans la mutualisation de certains matériels qui pourraient se faire. Je sais que, par exemple, il y a une formation apiculture au CFPPA, donc montée par Lionel Liénard, que j'ai faite moi-même. Et chaque année, il essaye de réunir les anciens élèves de la formation pour une rencontre entre apiculteurs, voir un peu le retour d'expérience de chacun, les difficultés qu'on a pu rencontrer ou les succès qu'on a pu rencontrer aussi dans nos activités d'apiculture. Et il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup plus de ruches et d'apiculteurs que ce qu'on pourrait imaginer, dans le sens où des apiculteurs de loisirs, on va dire, il y en a beaucoup en France. C'est une activité qui est encore très, très répandue à petite échelle. Alors que certains pays, on peut penser aux États-Unis ou des choses comme ça, se sont beaucoup professionnalisés dans l'apiculture avec des échelles même industrielles. Alors qu'en France, on a, je n'ai pas les chiffres en tête ici, mais encore une grande partie du miel consommé en France qui est autoproduit, quoi.
Alors il existe bien sûr une association apicole drômoise, hein, il y a une association apicole drômoise que nous avons contactée et que l'on invite à venir, bien sûr, au salon d'automne. Hein. On va essayer de la recontacter.
Qu'est-ce qui motive des personnes à s'impliquer dans une exploitation et, malgré les difficultés, à produire du miel ?
Il y a plusieurs motivations possibles. Déjà, à l'origine, il faut savoir que le miel était la principale source de sucre avant la généralisation donc, du sucre de canne, puis du sucre de betterave. Donc c'est une activité très, très ancienne, hein, même si elle a beaucoup évolué au cours des temps. Donc il y avait bien sûr le miel en tant que produit sucré, mais aussi les cires qui étaient très recherchées, notamment des prêtres et de tous ceux qui cherchaient à obtenir des bougies et autres produits qui nécessitent de la cire. Mais à l'heure actuelle, hein, en fait, l'activité d'apiculture hors donc production de miel, elle a un intérêt d'un point de vue de la pollinisation, déjà. Maintenir des abeilles, c'est assurer une bonne pollinisation, notamment au niveau des arbres fruitiers, mais pas que. Hein. Il faut savoir que il y a les abeilles, il y a aussi les insectes sauvages donc qui peuvent polliniser les différents arbres fruitiers, mais aussi une bonne partie de nos légumes, notamment les légumes fruits du type, alors je vais essayer de pas dire de bêtises, mais du type courge et courgette par exemple, ont éminemment besoin d'insectes pour la pollinisation. Et après, le travail en lui-même des abeilles, c'est quelque chose de particulier parce que c'est un rapport à des animaux qui sont radicalement différents de nous. C'est-à-dire qu'on est sur donc des insectes, donc on n'est déjà même plus dans les vertébrés. Mais néanmoins, il y a quand même une interaction qui se crée avec les seins. Parce que les abeilles, on peut les voir à titre individuel en tant qu'insectes, mais c'est des insectes sociaux, c'est même, on va dire, avec les fourmis, les insectes et les termites, les plus sociaux qu'on puisse trouver sur notre planète. Et quelque part, un essaim, on pourrait dire que c'est un individu en tant que tel, quoi. Quand je vais travailler dans un rucher, dans mon rucher, on va dire, je connais mes ruches et je sais, par exemple, que celle-ci est très tranquille, je peux prendre le temps pour travailler sans trop de risque qu'elle commence à s'énerver. Et celle-là, régulièrement, au bout de 5 minutes de travail, donc travailler consiste à ouvrir la ruche, hein, donc c'est déranger les abeilles. Et inévitablement, les abeilles, au bout d'un moment, elles ont une certaine tolérance donc, à ce qu'on les dérange. On cède de fumée pour, on va dire, brouiller un peu leur sens olfactif et les rendre moins agressives. Mais il y a vraiment un caractère pour chaque ruche, caractère qui d'ailleurs peut changer, évoluer au fil des années. suivant en fait les bourdons.
En complément de ces journées, il y aura un apéro-soupe, et ça sera à partir de 19h le samedi. Hein. Oui. Une soupe préparée avec quoi ?
Je pense qu'il y aura des champignons. Hein. Il est prévu des champignons.
Soupe et puis, shiitake potiron avec tartine. Voilà, à petit prix.
Apéro-soupe musical, et donc qu'est-ce qu'il y aura musicalement ?
Alors déjà, Jean-Claude Jarja doit venir avec son accordéon, en principe. S'il pouvait amener des collègues, ça serait encore mieux. Et sinon, on aura peut-être une surprise supplémentaire, parce que pour le moment, on est encore en préparation des invitations de musiciens. Donc on va faire des communiqués, en fait, dans le journal du Diwa. On en aura un premier où on va présenter le programme, donc ce jeudi, le journal du Diwa paraît le jeudi avec des communiqués dans lesquels on précisera la programmation musicale. Voilà.
Jean-Claude Rouchouz, l'eau, quelle en est votre activité dessus ? Je sais que vous aviez dressé une carte des cours d'eau du Diwa.
Ah oui. C'était indépendant de Sources et Racines, mais dans le passé, en effet, j'ai créé, inventé. la carte des ressources halieutiques du Diois. Elle est maintenant épuisée, mais on doit pouvoir la voir à la médiathèque. Donc c'est une carte qui localisait toutes les espèces de poissons du Diois et aussi où est-ce que l'on pouvait observer les castors, les cincles plongeurs, les couleuvres vipérines. Bon, c'était axé faune aquatique. Et il y avait aussi quelques données sur la géologie du Diois, puisque ça m'arrive d'organiser des balades géologiques, par exemple en association avec l'association Dioise des Amis des Arts. Il y a une quinzaine de jours, on a fait une grande balade géologique d'une journée. Donc il y a ce côté... Alors le côté géologie a été traité dans le Salon d'automne à certaines années, hein. Cette année, c'est le thème apiculture. Bon, il y aura probablement une année où on remettra la géologie. C'est un aspect aussi qui n'est pas négligeable dans le Diois, qui est peut-être méconnu. Hein. Beaucoup de personnes connaissent mal la géologie du Diois, puisqu'on a quand même des terrains qui vont de moins 160 millions d'années à maintenant, donc c'est pas mal. Hein. On n'a que l'ère tertiaire qui n'est pas représentée dans le Diois. Donc c'est un côté intéressant. Et bien entendu, au Salon d'automne, je peux répondre à des questions sur la géologie, sur la botanique, parce que comme moi j'étais un ex-prof de sciences nat, j'ai quand même une petite formation. Mais il faut savoir que la nature, c'est immense et que personne n'a toutes les compétences en ce qui concerne la nature. C'est inépuisable.
Qui auront, en ce moment, c'est la reine. Mais bon, là, je deviens un peu technique. C'est juste pour dire que c'est de l'élevage, mais un élevage très particulier.
Il faut savoir que les abeilles, c'est un monde fascinant. Hein. Moi, quand je travaillais comme écologue, je faisais partie du laboratoire de Rémy Chauvin, qui a été le grand spécialiste des abeilles en France et au niveau international. Hein. C'est un laboratoire qui était à Mithainville, en région parisienne. Et il faut savoir aussi que Max von Frisch, avec Lorenz et Tim Lergen, Max von Frisch, qui est le découvreur de la danse des abeilles et de la façon dont les abeilles voient les couleurs, ils ont eu le prix Nobel de médecine en 1973. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a encore des découvertes à faire sur les abeilles, par exemple sur une sorte d'intelligence collective étonnante, et c'est toujours passionnant. Hein.
Vincent, je reviens vers toi. Vous proposez d'ailleurs une démonstration de ruches en paille, hein, de fabrication. Lors de ces journées.
Alors les ruches en paille, ce sont une partie des ruches traditionnelles donc qui étaient utilisées, qui ont été utilisées pendant des siècles et des siècles. Entre autres, hein, c'était une façon d'élever les abeilles, la ruche en paille. Dans les ruches traditionnelles, on trouve aussi les ruches troncs, on trouve des ruches en terre. Mais ces ruches paille ont été à une époque très répandues avant l'arrivée donc de la ruche d'Adam, qui a constitué une grande révolution technique dans le travail de l'apiculteur. Et donc ça, c'est plutôt le domaine de Jean-Claude Jarjat, qui lui a beaucoup travaillé autour de toutes ces techniques anciennes. Et ce qu'on appelle ruche en paille, en fait, c'est des boudins de paille qu'on attache ensuite pour former le corps de ruche. Et après, on peut éventuellement y adapter même une petite osse pour récupérer du miel sans forcément détruire complètement la ruche. Parce qu'il faut savoir que dans des temps très anciens, la collecte du miel s'apparentait avant tout à de la prédation, quoi. C'est-à-dire que pour prendre le miel, on détruisait la ruche. Et au fil du temps, les hommes ont appris à collecter du miel sans pour autant détruire à chaque fois systématiquement la ruche, ou détruire, on va dire, à 99% de chance la ruche, quoi.
L'état des abeilles cette année dans le Diois est lequel ?
Alors l'hiver dernier, je sais que beaucoup d'apiculteurs amateurs comme moi ont perdu beaucoup de ruches. Moi en l'occurrence, j'ai perdu tout mon rucher, à savoir 10 ruches. Il y a des cycles parasitaires qui peuvent expliquer ça. Il y a aussi la récurrence des automnes secs qui font que les abeilles ont plus de mal à constituer des réserves viables avant l'hiver. Il peut y avoir la présence de pesticides éventuellement. Je sais qu'avec l'arrivée des pyrales, il y a certaines personnes qui ont voulu préserver leur buis et qui du coup ont traité leur buis contre les pyrales, mais la plupart des insecticides sont à spectre large et en fait affectent aussi les abeilles et les autres insectes. Mais tout ça, donc, c'est souvent des conjonctions de facteurs qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire que l'activité d'apiculture est devenue quelque chose de compliqué, voire aléatoire. Tout du moins à un niveau amateur. Et après, à un niveau professionnel, je ne dis pas que c'est moins compliqué, mais en tout cas, le suivi et le travail que les professionnels fournissent sur leur rucher font qu'ils arrivent à une certaine maîtrise des différents paramètres et se maintiennent. Ils ne sont jamais à l'abri d'une catastrophe, de toute manière. Et la grande légende, en fait, de l'apiculture avant l'arrivée du parasite principal, donc le varroa, qui est arrivé dans les années 80 en France, c'était « Ah, oh, mais les abeilles, c'est pas compliqué. Tous les anciens, ils nous disaient « Mais moi, j'y vais deux fois par an. Une fois, je pose les os. » Donc les os qui sont les boîtes destinées à récupérer le miel. Et j'y reviens trois mois plus tard et je récupère les os. C'est tout. Et ça marche tout seul. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on est quasi obligé d'être interventionniste dans la mesure où on veut récolter un peu de miel, en fait. Une ruche qu'on ne touche pas peut éventuellement survivre très longtemps. Mais dans la mesure où on va avoir un peu de miel, on va être obligé de soutenir les abeilles en luttant contre les parasites et éventuellement même en leur constituant des réserves, en leur donnant du sucre à la place du miel qu'on leur aura pris. Donc le sucre qu'on leur fournit pour l'hiver, hein. On est bien d'accord que ce n'est pas du sucre qu'on va transformer en miel pour ensuite le manger, quoi.
Jean-Claude Rouchouz, la flore dans le Diwa, comment a-t-elle évolué selon votre regard, peut-être, depuis le nombre d'années que vous êtes dans le Diwa?
Le Diwa est une région riche, hein, puisqu'il y a tout de même des zones non cultivées ou en alpage non traitées par des pesticides. On trouve une grande variété florale que les Diwa connaissent bien. Ils savent très bien que Combo, par exemple, qui est limite Vercors-Diwa, est un site exceptionnel au niveau de la flore. Mais on peut citer aussi la vallée de Quin, on peut citer des coins secrets dans les gorges de la Roanne. Donc il y a une grande diversité au niveau floral dans le Diwa. Alors il faudrait bien sûr que l'agrobiologie, il faudrait que les vignerons en particulier n'utilisent pas de pesticides, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, on a les méthodes. Donc bien sûr, ça ne peut que favoriser la diversité florale. Dans le Diwa, par exemple, on a plus de 40 espèces d'orchidées. Hein, plus de 40 espèces. On a une floraison, dans certains cas, exceptionnelle. Au niveau des arbres, c'est également varié, avec quand même, en raison de la reforestation, la prédominance du pin noir. C'est vrai que les forêts de résineux sont moins riches au niveau floral que les forêts mixtes. C'est pour ça qu'il est souhaitable que l'ONF, ce qu'elle commence à faire d'ailleurs, repeuple, reforeste avec des forêts mixtes, feuillues résineux où la biodiversité est plus importante.
Il y aura d'autres sujets qu'on pourrait aborder selon ces trois jours de salon d'automne.
Bah, on n'a peut-être pas assez parlé des champignons, parce qu'il faut savoir que ce soit Jean-Claude donc, ou Caroline donc, s'occupe de la détermination des champignons, mais on a prévu un moment d'atelier où ils vont expliquer les méthodes de détermination des champignons. Donc ce sera le samedi à 17h. C'est un atelier de découverte, hein, on est bien d'accord. On ne va pas devenir expert en une heure d'atelier en détermination de champignons. Et il faut savoir qu'en matière de champignons, mais ils vous l'expliqueront mieux que moi in situ, il faut toujours être très prudent. Il y aura toute une série de guides, par exemple, qui aident à la détermination des champignons. Caroline et Jean-Claude pourront expliquer les clés de détermination et les différentes méthodes appliquées par les différents guides. Ce qui va se passer le lendemain à 13h30, c'est que Caroline donc, va organiser une balade sur les curiosités mycologiques. À partir de la salle polyvalente, donc un petit tour dans les alentours immédiats de Die pour découvrir donc non seulement les champignons tels qu'on les connaît classiquement, mais peut-être même aussi les champignons d'arbres, peut-être qu'elle touchera un mot sur les lichens qui sont des symbioses entre champignons et algues. Voilà, il y aura des choses très intéressantes à découvrir, notamment le monde des champignons en fait fait intégralement partie de la biodiversité, du système écologique. Quand on voit un champignon, c'est en quelque sorte le fruit, même si c'est faux ce que je vais dire et que les mycologues me reprendraient certainement, mais c'est le fruit d'un mycorhize qui, lui, s'étend dans le sol, se nourrit de différents éléments du sol. Les champignons participent notamment à la dégradation des bois morts et tout ce qui est cellulose. Et c'est partie intégrante du cycle qui fait qu'on peut avoir un sol fertile, de l'humus, etc.
Personnellement, j'ai déterminé environ 500 espèces différentes de champignons dans le Diois et dans le Vercors. Il est probable qu'il existe plus de 800 espèces de champignons cueillables dans le Diois et dans le Vercors. Et certaines catégories de champignons, comme les cortinaires, sont très difficiles à déterminer. Il faut avoir des réactifs. Et pour certaines espèces, on est pratiquement obligé de passer par la microscopie. Donc, il faut être modeste et pouvoir dire, ben, écoutez, celui-là, je n'arrive pas à le déterminer. Hein. C'était tout de même extrêmement intéressant. Il existe d'ailleurs hein, une société mycologique à Montélégé, hein, entre Creil et Valence, où on a là des spécialistes de la mycologie qui se réunissent tous les lundis après-midi.
Pour tout renseignement, pour les auditeurs qui voudraient en connaître plus, il y a deux moyens. Donc, un avec le mail, c'est l'adresse, je la donne, hein, source et racines au pluriel, tout attaché, @gmail.com ou par téléphone au 04 75 21 02 00.
On invite les gens éventuellement à venir à la balade mycologique de dimanche prochain, hein, 8h30 devant l'office de tourisme de Die, et nous apporter des champignons pour l'exposition venant du Diois ou du Vercors. On vous remercie hein, pour nous avoir accueillis, et puis on vous invite à venir au salon d'automne.
Vincent et Jean-Claude, je vous remercie donc d'être venus nous parler du salon d'automne qui se passera du 18 au 20 octobre à la salle polyvalente de Die. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
skies. A reggae lady, a future queen. She came a singing the Andromeda blues. Sweet, sexy lady, Creole queen.
Sexy lady.